Marcel Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour à tous, bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick.
Et nous avons le plaisir de recevoir en ce début du mois de juillet une écrivaine qui va nous amener promener dans la campagne, mais plutôt dans la forêt, dans la vaste forêt, la forêt sombre, la forêt profonde, avec ses mystères qui parfois peut être environné de brume à l'automne, ou bien nous couvrir de ramages au printemps, voire en été. Bonjour Anouk Lestik.
Bonjour Patrick, bonjour Gisèle.
Bonjour.
C'est un plaisir donc de vous recevoir, de retrouver les studios, car vous êtes déjà venu il y a quelque temps à Radio B, n'est-ce pas ?
En effet.
C'est bien. Il y a combien de temps à peu près ? C'était pour un livre, je présume ?
Oui, c'était pour ce livre-ci que vous avez devant vous, Félix Silvestris, et oui. C'était dans l'émission de Gaël Heureux, encore
d'accord.
Heureux.
C'est bien. Et ce fut un enregistrement heureux.
Tout à fait.
Très bien. Alors, chère Gisèle.
Oui.
Qu'est-ce que vous...
Je suis contente parce que c'est un jeune auteur.
Oui.
Et finalement, j'étais assez capturée par son écriture. C'était incroyable parce qu'en fait, au début, je me suis dit, ça doit être écologique, un peu rasoir. Pas du tout. On entre dans son univers et on se trouve très bien.
Ben, merci.
Non, mais c'est la vérité. Donc, c'est une écriture intimiste, mais c'est bien toute la description est là.
Tout à fait, mais vous avez dit écologique comme si c'était un gros mot.
Mais non, pas du tout. Parce que, le problème, c'est que maintenant, on ne sait plus où se situe l'écologie vraiment. C'est
tout
ça.
C'est ça le problème. C'est l'arbre qui cache la forêt, peut-être.
Voilà. Non, mais allez-y. Hein.
Oui, concernant l'écologie, moi, je ne le présente pas moi-même comme un roman écologique, parce que c'est devenu aussi un mot valise qui englobe beaucoup de choses qui ne correspondent pas à sa définition.
C'est ça.
Pour moi, il est écologique au sens propre, racinaire du mot, qui est...
Sens primaire du mot.
Au sens primaire du mot, qui est une réflexion sur le lieu de vie. Et ça, c'est vraiment celle qui parcourt mon roman, que
donc
ce soit du côté de la narratrice.
Donc on retrouve tout ça dans votre roman, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai. Voilà. Donc alors, il s'agit de deux sœurs, en fait, dans votre roman.
Oui, tout à fait. L'une qui est partie vivre en forêt en plein hiver, rejoindre une communauté activiste, et l'autre, la petite sœur, qui prend en charge ce récit. Parce que la sœur qui est partie ne donne pas de nouvelles.
Celle qui reste, elle invente sa vie.
Voilà, il s'agit de combler le vide.
C'est ça, oui. Donc, d'où le titre, alors, du livre. Vous pouvez donner le titre du livre, parce que c'est quand même particulier, allez-y.
Félix Silvestris, donc en latin, ça signifie le chat sauvage, le chat sylvestre. Et c'est le nom que prend la sœur qui est partie en forêt. C'est ainsi qu'elle se rebaptise dans cette forêt, puisque dans un contexte activiste, on ne garde pas son vrai nom et son vrai prénom. Et cherchant un nom, elle tombe sur un affichage avec les animaux protégés de cette forêt et qui aide en fait à la défense de cette forêt.
Oui, c'est ça, c'est qu'elle est venue défendre la forêt parce que elle est en pleine déstructuration, sûrement.
Oui,
parce
en effet, c'est une espèce de dernier îlot restant dans un champ d'extraction de lignite.
Ah, oui.
Et voilà, cette forêt apparaît vraiment comme une île au milieu de toutes ces zones creusées.
Et qui risque de disparaître.
Oui.
Pourquoi
donc,
la forêt,
garder cette forêt.
Toujours. Pourquoi la forêt et pourquoi le chat? Pourquoi il y a des chats dans la forêt, sûrement.
Alors, le chat sauvage, c'est une espèce particulière qui n'est pas la même que le chat domestique et qui n'est pas non plus un chat ensauvagé. C'est vraiment une autre filière chat.
Mm-hmm.
Et c'est une espèce qui vit dans les très vieilles forêts. Et c'est une espèce très furtive qu'on rencontre assez peu souvent. Et là, dans le cas de cette histoire, c'est une des espèces que les naturalistes ont pu observer et ça leur sert d'argument, de poids pour pouvoir garder cette forêt, parce qu'il s'agit de conserver cette espèce.
Ah oui, si la forêt disparaît, les chats aussi, les chats sylvestres disparaîtront.
Voilà, ce serait une perte de leur habitat.
C'est ça, c'est bien.
On peut parler un petit peu de vous d'abord.
Oui, si vous voulez.
Alors, vous avez quel âge? Parce que vous êtes très jeune quand même.
Ça dépend comment
on
l'entend.
Vous êtes les années 90-91, on va dire.
C'est ça. Oui, voilà. J'ai 31 ans.
Bah oui, vous êtes très jeune. Voilà. Et comment vous êtes venue à l'écriture? Vous êtes née à Bourg.
Oui.
C'est déjà bien pour nous.
Je suis née à Bourg-en-Bresse, j'y ai grandi, j'y ai fait mes premières études quoi, jusqu'au bac. Et voilà, ensuite j'ai étudié les lettres, les beaux-arts et j'ai un peu voyagé et réalisé des documentaires.
Vous avez beaucoup voyagé.
Oui, c'est pareil, c'est toujours une histoire de mesure, mais en tout cas, oui, à l'époque, je m'y suis consacrée, j'ai consacré un certain temps au voyage et donc à l'époque aussi au documentaire.
Vous êtes allée où ?
Disons que mon principal voyage, ça a été au Pérou, dans une région d'Amazonie. Qui s'appelle
Madre
de Dios.
Là, c'est pareil avec les problèmes de l'Amazonie en ce moment qui sont en train de déforester. Donc, c'est ça. Hein.
Oui, alors où j'étais au Pérou, ce ne sont pas les mêmes problèmes qu'au Brésil. Pour autant, il y a aussi, bien sûr, plein de problèmes, comme de partout. Là, c'était plutôt des enjeux d'une entreprise qui exploite le pétrole qui venait s'implanter dans une forêt. Voilà, qui n'avait encore pas été trop attaquée.
Elle-même, en fait. Hein. Oui.
Oui, ça a un peu moindre proportion qu'au Brésil pour l'instant, mais oui, le résultat catastrophique est le même.
Ah oui. Donc vous êtes allée d'abord là-bas et puis après ?
Voilà, après, au cours d'un autre voyage qui ne s'est pas passé comme prévu, j'ai atterri, on va dire, en Casamance, où j'ai intégré un projet de permaculture en lien avec une association du Beaujolais qui s'appelait UFR à l'époque. Et le projet s'appelle Permacabadio, c'est un projet qui perdure et qui vise à l'accompagnement d'un village, d'un groupe dans un village qui souhaite jardiner en permaculture, ou en tout cas, eux, dans leur méthode traditionnelle, mêlée à des concepts européens qu'on a un peu métissés.
Vous pouvez nous dire où Casamance se trouve ?
La Casamance, c'est au sud du Sénégal.
Voilà, non, c'est pour les auditeurs.
Voilà, donc c'est à nouveau un climat tropical. Oui. Et en fait, de ces deux expériences, j'ai tiré à la fois l'apprentissage des arbres, principalement des arbres, et puis aussi d'autres petites plantes qui poussent, mais dont j'ai appris les noms dans d'autres langues que la mienne, et qui sont aussi des plantes et des arbres qui ne poussent pas chez nous.
Oui, ce n'est pas les mêmes essences que chez nous.
Non, et j'étais complètement passionnée par ça dans ces autres contextes. Et je me suis dit que, quand j'ai ressenti le besoin de rentrer et aussi de me consacrer à l'écriture, je me suis dit que ça pourrait être un bon point de départ de m'intéresser de plus près à nos forêts. Et il y a vraiment de quoi faire.
Donc la forêt vous intéressait et l'écriture aussi. Donc vous aviez allié les deux en fait.
Oui, l'écriture, c'était un peu mon premier amour que j'avais délaissé au fil de mes études. Parce que peut-être que je n'assumais pas mon envie simple d'écrire. Et donc, je suis passée par d'autres médiums aux Beaux-Arts. J'ai expérimenté plein de choses.
Vous avez fait aux Beaux-Arts ? Un peu de peinture.
Je suis arrivée en aimant peindre et dessiner, ce que j'ai abandonné quasiment tout de suite parce que l'école ne me proposait pas ce type de dessin que je voulais faire. C'est un peu le problème de certaines écoles des Beaux-Arts qui déconstruisent beaucoup trop tôt, je pense, et beaucoup trop des élèves qui ont une pratique un peu plus académique.
C'est ça, oui.
Donc, ce qui m'a permis de découvrir plein d'autres choses et de réfléchir autrement à ce qu'est l'art. Pour autant, ça m'a aussi un peu dépossédée de ces choses que j'aimais faire. En revanche, j'ai commencé à utiliser la caméra et les enregistrements sonores.
Et là, ça a bien marché.
Et là, ça m'a plu parce que, en fait, ça avait de commun avec l'écriture que c'est un art du temps, en fait, avec une temporalité dans laquelle on plonge quelqu'un avec nous. Et ça, c'était quelque chose qui me convenait, plus le fait de pouvoir intégrer l'écriture dans les vidéos.
Vous êtes bien adaptée, là. C'était bien pour vous ?
Voilà, c'était bien pour moi. Je pouvais aller bosser dans un studio de montage toute seule au dernier étage et je m'y retrouvais.
Vous êtes un peu solitaire quand même ?
Oui, un peu.
Indépendante ?
Oh, sûrement !
Oui.
C'est bien, dans la forêt, elle est tranquille avec les animaux. Et la forêt, à partir de quel âge elle entre dans votre univers ? La forêt ?
Mais c'est au fil du temps, c'est au fil du temps que
exactement.
La forêt de Seyon à Bourg, c'est la forêt de Seyon.
En effet, c'est un endroit où j'allais me promener quand j'étais enfant, et puis randonné avec mes parents en montagne et donc en forêt. Donc mes grands-parents étaient à la campagne, agriculteurs, donc j'ai grandi
la terre et la nature.
Voilà, j'ai grandi à la campagne, mais pour autant, mon éducation sylvestre, là, je l'ai faite très récemment.
Par vous-même, c'est
vous-même.
Récent.
Oui.
Et y a-t-il d'autres pays, par exemple d'Europe, où vous êtes allé ?
Oui, je ne sais pas si c'est nécessaire de tous les citer.
Non,
mais...
non, il y a le Pérou, c'est un autre continent. Il y a l'Afrique, et puis maintenant on revient en Europe.
Oui, oui, j'étais dans pas mal de pays, notamment les pays frontaliers avec la France. Oui. J'avais été aussi en Norvège à l'époque.
Beaucoup de forêts là-bas.
De très belles forêts aussi,
d'où
des conifères.
D'où ma question.
Et
oui, des conifères. Une forêt, un lac. Une forêt, un lac.
Oui, c'est ça.
Pendant des kilomètres.
Aussi. Alors, comment est-ce qu'on pourrait présenter votre livre ?
Je ne sais pas, ça vous de me le dire.
Non, mais bah, par exemple, bon, il est paru quand, ce livre ?
Ah, d'accord. Alors, il est paru le 11 janvier 2022.
D'accord.
Il a un peu plus d'un an et demi d'existence.
Un an et des poussières, voilà.
Il continue sa petite route dans les librairies indépendantes.
C'est bien.
Parce que donc, il a été publié aux éditions du Penseur, qui est une maison d'édition indépendante et récente, qui a été fondée en 2019 par Jérémy M., qui est lui-même implanté, ou en tout cas basé dans l'Ain, à Jassin-Riotier.
Penseur avec un A.
Le penseur avec un A, exactement. Et donc moi, j'étais le septième titre, le sixième de cette maison. Donc moi, j'étais inconnue d'une maison très peu connue aussi. Donc il a cheminé lentement, mais par contre, les libraires qui s'en sont emparés continuent de le défendre plus d'un an et demi après. Et ça, c'est une...
Mais déjà, quand on le tient en main, ce livre... La douceur de la couverture, moi, j'ai été épatée.
Il a de l'avenir et il y a une musique toujours à l'intérieur.
Oui, mais ça, c'est quelque chose, en effet, auquel...
Ça vient de l'écrivain.
Auquel je suis attentive. Avant d'écrire ce livre, j'avais une pratique plutôt de poésie. Donc, donc voilà, les questions de rythme et de sonorité ont toujours été au cœur
Mais ça se ressent dans le livre, d'ailleurs, hein.
Oui, je l'espère. Oui. En tout cas, en tant que premier livre, il résulte de plein de choses que j'avais pu expérimenter avant, que ce soit d'ordre poétique, de l'ordre du montage aussi de fragments, que je pratiquais plutôt en vidéo.
Oui.
Et d'un point de vue formel, il hérite des tendances que j'avais à ce moment-là, que j'ai cherché à mettre ensemble dans un livre.
Vous l'avez porté combien de temps, ce livre, avant de le voir naître ?
Alors, j'ai commencé à l'écrire début 2018, dans le cadre d'un master de création littéraire, master que j'ai achevé en juin 2019. J'ai commencé à l'envoyer à des éditeurs fin 2019, début 2020. Donc, si je continue la chronologie, Jérémy M., mon éditeur, m'a répondu, je crois, au mois de mars 2020. C'était à peu près autour du début du confinement. Et on a signé notre contrat en juillet 2020 et il est paru donc en janvier 2022. Donc il y a eu un grand temps de préparation parce que son agenda de publication était rempli déjà. Mais ce qui nous a permis aussi de beaucoup le retravailler ensemble et de prendre le temps de laisser décanter entre chaque session de retravail, ce qui, j'espère, a profité au livre.
Non, mais on entre dans ce livre... C'est deux sœurs, c'est deux âmes sœurs, en fait.
Oui, en quelque sorte. Bon, pas dans le sens amoureux.
Non, pas du tout.
Mais en effet, en tout cas, ce sont...
Mais on a l'impression qu'elle fait revivre sa sœur. On ne sait pas si elle a pas disparu, si elle a vraiment existé. C'est ça, en fait, qui pose les questions, non ?
Oui, alors ça, c'est un champ interprétatif que je laisse volontairement ouvert.
Enfin, moi, j'ai eu cette impression. Hein.
Oui, certaines personnes l'interprètent comme en fait une seule et même personne. D'autres pensent que la sœur aînée est peut-être décédée.
Oui, voilà, c'est ça.
Et il y a cette adresse aussi au « tu » qui peut laisser...
Le « tu » et le « je », on passe de l'un à l'autre, c'est quand même pas mal, ça.
Oui, ce tu peut faire penser en fait à la manière aussi dont on s'adresse à nos morts, parfois
ça,
silencieusement.
Oui.
Moi je laisse ces pistes ouvertes parce que j'aime le fait que chacun l'attrape, cette histoire, de la manière qu'il ou elle veut. En tout cas, oui, ces deux sœurs se posent les mêmes questions finalement, mais pas de la même manière.
Différemment, oui.
Voilà,
oui.
Pas au même moment de leur vie. Donc l'une étant dans un mouvement permanent. Et atterrissant dans cette forêt où elle va essayer de se reconstruire un peu, parce qu'on comprend aussi que c'est une...
Alors c'est ça le problème, c'est qu'elles ont des failles, ces sœurs, quand même.
Oui, c'est, je ne sais pas si c'est le problème, en tout cas, c'est,
si,
c'est
enfin, leur condition. On le ressent quand même, oui. La faille dans beaucoup de familles, d'ailleurs. Hein. Donc peut-être que c'est ce qu'elle va chercher. Elle va chercher la reconstruction, peut-être.
Oui, c'est ça. Et la sœur cadette qui mène le récit.
C'est elle qui le mène, oui.
C'est aussi une enquête qu'elle fait sur ces failles. Ces failles qui sont familiales, mais aussi individuelles et très difficiles à déterminer.
Saisir, oui.
Et je pense que c'est le cas de beaucoup de mal-être contemporain, et puis depuis toujours sans doute, mais en tout cas des mal-être qu'on ne peut pas caractériser, sur lesquels on ne peut pas coller d'étiquette. Et c'est tout et le problème aussi des parents.
On a des difficultés d'expliquer ces failles-là. Oui. On les ressent, mais on les explique difficilement.
Elles sont profondes et intimes.
Oui, c'est ça, voilà.
Oui, ouais. Et il y a cette complexité dans les familles où, entre deux sœurs, entre des fratries, on a pu être élevé de la même manière, dans le même contexte, et pour autant ressentir la vie d'une manière complètement différente.
Oui, c'est une
énigme à laquelle se frotte la cadette.
Oui, comment on s'adapte aux autres, tout ça, c'est pas facile non plus. Voilà, les problèmes familiaux, en fait.
Mais c'est toujours bien. Été, hein.
Oui,
c'est pas d'aujourd'hui,
ça continue, hein. Ça continue toujours.
Ça continue. La forêt, peut-être, est pour vous un refuge.
Oui.
Où on se réfugie.
En tout cas, oui, ça l'est dans le livre à deux niveaux. Donc, cette sœur aînée qui trouve un refuge temporaire et de la cadette aussi qui s'est réfugiée par l'imaginaire.
Oui, parce qu'elle est enfermée dans un c'est l'hiver quand même chez elle.
Oui, c'est l'hiver, elle a froid.
Et voilà, c'est ça, elle a froid. Elle est dans cet appartement.
C'est courageux.
Elle élève des vers quand même, des lombriques.
Oui, voilà.
C'est pareil, curieux.
Elle est dans un appartement qu'on lui prête, dans une ville qu'elle ne connaît pas. Donc, elle est elle-même dans un moment de sa vie assez déstructuré.
Oui.
Et elle invente des petits gestes pour se raccrocher à quelque chose. Oui. Et notamment à cet élevage de lombriques à qui elle donne ses déchets quotidiens, déchets végétaux.
Et c'est aussi
un point une manière de se relier à cette sœur en forêt, puisque la terre est remplie de tous ces vers, est habitée par ces vers.
Oui, c'est quand même impressionnant, parce qu'en plus il y a l'histoire du père aussi. Ce père est quand même particulier, parce que c'est un scientifique quand même.
Non, hein? C'est un scientifique tout à fait improvisé.
Oui, c'est ça. Oui,
il intervient beaucoup à travers sa lubie de la maladie de Lyme. Et c'est une manière pour lui d'essayer d'intervenir, d'avoir peut-être un ultime rôle de père, là où on sent qu'il a plutôt été défaillant auprès de ses filles. Et donc là, il fait...
Ouais, elles se sont construites toutes seules, les filles, en fait.
Le livre le dit à demi-mot, quoi. En tout cas, on comprend qu'il y a eu une rupture familiale, donc entre les parents,
entre les filles qui sont parties. Le père a quand même de l'importance, parce qu'elle en parle quand même régulièrement.
Oui, bien sûr. Il intervient par des coups de fil, en fait. Et donc, dans cette famille qui perdure malgré tout et qui perdure autour de la figure absente de l'aîné. Il y a des communications à distance, et donc à distance par la technologie, mais aussi à distance par leur esprit qui ne sont...
C'est la pensée, parce qu'en fait, la sœur, elle ne répond pas, elle ne parle pas jamais, l'autre sœur.
Non.
Donc, elle imagine la vie de sa sœur, mais elle ne sait pas exactement comment ça se passe.
En effet. Alors, à ce sujet, je peux préciser que mon livre, elle a eu une version québécoise assez récemment.
Ah bon ?
Il a été republié aux éditions XYZ, qui est une maison québécoise. Et cette nouvelle version a été augmentée de 6 poèmes. Ça a été en discussion avec mon éditrice Myriam Karen Belzile, qui est une éditrice formidable, et qui sachant ma pratique de la poésie, m'a proposé si je voulais m'a laissé cet espace ouvert.
Oui.
Sur le coup, un an après, je n'avais pas du tout envie de toucher à ce livre, et finalement ça a cheminé, et donc on a intégré 6 poèmes qui peuvent être lus comme une voix de Félice. Mais cette voix n'est pas nommée non plus, donc ça pourrait toujours aussi bien être la voix de la narratrice.
C'est ça, voilà.
Qui s'exprime d'une autre manière dans ces pages-là.
C'est ce qui fait la force, d'ailleurs, parce qu'elle s'exprime différemment.
Vous voulez dire dans les poèmes ?
Dans les poèmes, oui.
Oui, c'est encore une autre voix. Et comme ce livre est aussi un mélange de voix, celle des parents, celle de la narratrice, ça ajoute une petite épaisseur.
Donc, vous voyez, ce père qui parle de la maladie de Lyme, c'est quand même curieux. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de cette maladie.
Oui, en effet, elle se répand de plus en plus. elle prolifère, en fait, c'est une tique qui
la, tique, oui.
qui la transmet. Et là, avec le réchauffement climatique, oui. les périodes de reproduction sont plus fréquentes.
Parce que d'habitude, l'hiver, il y en a pas mal qui mouraient quand même.
Oui.
Et les hivers ne sont plus rigoureux. Donc, tous ces insectes qui étaient là, il y en a beaucoup qui perdurent. Et il y a les larves qui sont toujours là. Donc, au printemps, elles commencent à proliférer. Et quand elles commencent à mordre, il y en a... Mais bon, elles ne sont pas toutes porteuses non plus de la maladie.
Non, c'est pas pour toutes ça qu'il faut rester vigilant à ce qu'il se passe.
Oui, mais quand même, quand on se fait mordre par une tique, il faut être très, très précautionneux quand même.
Oui, ça m'est arrivé ce week-end, alors je suis en période d'inquiétude.
Parce que la maladie se déclare souvent très tardivement.
Oui, alors il y a des, comme le dit le père, qui ne dit pas que des bêtises, il peut y avoir des symptômes immédiats en fait, qui sont les érythèmes, qui sont ces espèces de cercles rouges qui se manifestent autour de la morsure. Ça, c'est, bon, je ne l'ai jamais vécu, mais en photo, c'est très visible. Et ça se manifeste quand même dans la plupart des cas. Mais en effet, il peut ne pas y avoir d'érythème et il peut y avoir des conséquences en fait, beaucoup plus graves des années, des dizaines d'années après.
Donc, il fait bien de travailler dessus, en fait.
Vous connaissez la forêt dont vous parlez, par exemple, dans le roman ?
Oui, alors
vous voyez le cadre.
Je me suis inspirée d'une forêt qui existe, qui était une forêt occupée en Allemagne, près d'Aix-la-Chapelle, qui s'appelle Ambar. Mmh. Je m'étais rendue dans cette forêt et donc elle m'était restée fortement en tête. Mmh. Après, j'étais aussi...
Vous y alliez comment ? En promenade ou vous y étiez...
J'étais allée rendre visite à ma sœur.
Ah d'accord, d'accord. Ah oui, donc un peu... On retrouve le livre quand même. Dans
oui, bien sûr.
C'est ça, en fait.
Oui, il y a un fort matériau autobiographique, mais aussi plein de déviations. Parce que, en tout cas, mon ambition n'était pas de raconter ma vie, mais bien d'écrire un roman. Mais j'avais ces histoires fortes qui m'habitaient beaucoup trop.
De toute façon, on écrit toujours un peu sa vie. Oui, d'une façon ou d'une autre.
En tout cas, je pense que pour ce premier roman, j'avais besoin de me libérer de cette matière-là, enfin de me libérer et avant ça de l'explorer, de la creuser. Et donc oui, dans la vraie vie, ma sœur a habité quelques mois dans une forêt occupée. Et donc je suis allée la voir parce que dans la vraie vie, on est en contact depuis toujours. Et donc j'étais très marquée par ce lieu-là, mais j'avais aussi en tête d'autres forêts que moi je visitais, des forêts européennes.
Il y a de belles forêts en France.
Oui, bien sûr. Et aussi des forêts qui étaient parfois présentes dans les médias, des zones à défendre. Oui. Donc voilà, c'était un peu un mélange de différentes images qui étaient
dans ma tête. Oui, ce n'est pas une forêt précise, c'est un ensemble.
Sinon,
voilà.
J'aurais choisi de la nommer. Là, le choix de ne pas nommer cette forêt était tout à fait conscient et volontaire. Il ne s'agissait pas de faire un documentaire sur cette forêt, ni d'écrire une autobiographie. Oui, le contrat que je propose dans ce livre.
Vous-même, aimeriez-vous vivre dans les forêts comme ceci ?
Alors ça, c'est une vaste question avec moi-même, avec mon compagnon. Pour l'instant, j'habite à Paris, qui est une autre sorte de forêt.
C'est une forêt d'immeubles.
Par ailleurs, l'Île-de-France est assez riche en forêts.
C'est vrai.
Ensuite, concernant le fait de vivre en forêt, je suis mitigée sur la question, parce qu'une partie de moi pense qu'il faut laisser les forêts tranquilles, donc de les habiter de manière pérenne, c'est pas forcément une bonne solution. En tout cas, certains peuvent se permettre de le faire, mais ça veut dire qu'ils présument que les autres ne vont pas le faire. Sinon, la forêt ne serait pas respectée. Ouais. Donc voilà, ça c'est déjà un questionnement éthique. Mmh. Et ensuite, c'est un tout autre mode de vie qu'il s'agit d'assumer. Et dont je me sentirais prête en partie à... enfin, que je me sentirais prête en partie à assumer, mais qui nécessite aussi d'autres
inconvénients. Je voudrais partager ça avec votre compagnon, ce qui n'est pas toujours le cas.
En effet, lui, il adore les déserts. Donc,
ah d'accord, ah, oui, alors c'est tout à fait l'inverse, là.
Oui, et puis bon, habiter en forêt demande assez fréquemment d'avoir une voiture si on ne veut pas vivre complètement coupé du monde. Oui. Enfin, tout ce genre de détails très, très pratiques qui pour l'instant, ne sont pas résolus pour moi.
Le désert. Là, pense, et la forêt, on pense aussi. Le désert, c'est un vaste étendu, sans arbres, bien sûr, mais il y a le vide, le silence, et le ciel.
Oui, alors au Moyen-Âge, les ermites parlaient de forêt comme de désert.
C'est ça, c'est ce que je voulais dire.
Oui, les ermites partaient dans le désert, mais c'était des forêts, parce que c'était des déserts humains.
Humains, c'est ça, voilà. C'est ce qu'ils voulaient dire. C'est ça, en fait.
Et il se trouve que ces ermites, ces moines défricheurs ont aussi fait beaucoup de... ont même pratiqué beaucoup la déforestation.
Oui.
Donc, ils ne sont pas allés jusqu'à créer un désert.
À l'époque, ce n'était pas aussi malheureux que maintenant.
Non, c'était à des échelles beaucoup plus réduites.
Plus humaines.
Mais en tout cas, ces moines étaient aussi des bûcherons.
En parlant de moines, vous avez fréquenté une abbaye en Normandie.
Tout à fait.
Vous avez travaillé. Racontez-vous un peu tout ce que vous avez découvert à l'abbaye d'Ardennes, c'est ça?
C'est ça. Donc j'étais en résidence à l'abbaye d'Ardennes cet hiver. C'est un lieu qui est occupé par l'IMEC, qui est l'Institut Mémoire des Éditions Contemporaines. Un très bel endroit, à la fois dans les bâtiments, mais aussi avec une belle âme, je dirais, une équipe géniale qui y travaille, que je remercie encore pour son accueil.
Vous étiez nombreux ?
Alors en fait, ils accueillent. C'est un lieu qui accueille donc plein d'archives de penseurs et penseuses et écrivains-écrivaines du XXe siècle. Et qui accueille de manière hebdomadaire des chercheurs et chercheuses qui viennent consulter ces archives. Mais ils ont aussi un programme de résidence pour les écrivains et écrivaines.
Et vous, vous concertez entre vous ?
Oui, les écrivains et écrivaines, en général, on est soit tout seul, soit deux, trois en même temps.
D'accord.
On a chacun notre studio. On peut aussi aller travailler dans la bibliothèque qui est en fait dans l'abbatiale. Donc qui a été très, très joliment architecturé.
Et vous trouviez tout là-bas ?
Alors moi, je n'étais pas là-bas dans une perspective de recherche. J'y suis allée pour écrire mon prochain roman, où une ermite est en jeu d'ailleurs.
On va en parler.
J'étais aussi en train de terminer un premier jet d'un autre livre qui s'appelle Copeaux de bois et qui sera publié au mois d'août. Donc finalement, dans ce lieu là-bas, en abbaye d'Ardennes, j'ai terminé mon livre, qui va sortir là, ce mois d'août.
D'accord.
Et qui parle de bûcheronnage.
Ça doit inspirer dans ces lieux. Non seulement religieux, mais en même temps, retiré,
ben, c'est serein quand même,
refuge,
voilà.
Comme une forêt un peu.
Oui, c'est très calme. Après, j'étais loin d'être toute seule, parce qu'en fait, il y avait vraiment des temps, notamment des repas, où tout le monde mange ensemble,
c'est
l'équipe,
ça.
Les chercheurs, les écrivaines.
C'est pour ça que je vous demandais si vous pouviez communiquer entre vous aussi, quand même. Voilà, c'est
oui,
pas...
bien sûr. Bah, voilà. J'ai notamment eu une camarade pendant un mois, écrivaine, qui s'appelle Abigail Assor, qui était en train d'écrire son second roman aussi. En général, on faisait le point un peu le soir, où on se retrouvait. Il y avait aussi un poète qui s'appelle Christophe Manon. Et voilà, ce sont des personnes avec qui j'ai pas vraiment vécu pendant un mois, mais en tout cas, on s'est côtoyés. Et puis, souvent, on parlait d'écriture, en fait.
Chacun autour, c'est bien.
Voilà, et chacun dans nos perspectives très différentes.
Dans d'autres domaines.
Oui.
Ils ne sont pas tous sur la forêt, quand même.
Non, là, j'étais la seule sur le sujet.
D'accord. Et quel sujet ?
Un sujet qui reste tout à fait à la mode.
De plus en plus.
Oui, depuis une petite dizaine d'années, c'est devenu un peu l'image même de l'écologie. Ce qui est à la fois mais profitable malgré moi, parce que justement, mon livre vert appelle, parce qu'il a il renvoie cet imaginaire qui plaît aujourd'hui, enfin qui plaît ou qui interpelle.
Interpelle quelque part, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Après, j'aime pas spécialement être dans un sujet à la mode, mais bon, je dois constater aussi que ça me bénéficie. Puis je ne l'ai pas fait dans ce but-là, en tout cas. J'ai
non,
pensé
c'était
à
pas
à
une question
avant.
De mode. Non, c'est ça. C'était que vous vouliez défendre ces forêts qui sont en train d'être détruites.
Oui, en tout cas, moi, c'est un lieu dans lequel j'aime être et j'aime être par l'imaginaire aussi. Donc voilà, ça me plaît d'écrire à ce sujet.
C'est reposant et en même temps, c'est un lieu de création.
Oui, mais c'est pas de tout repos, une forêt. Et d'ailleurs, je crois que je ne la décris pas comme ça dans ce livre, ni dans le prochain qui paraîtra. C'est un lieu très, très habité aussi.
Elle vous inspire de la crainte, la peur, la nuit, par exemple ?
Assez peu.
Vous iriez seule en forêt ?
Oui, ça c'est pas...
C'est pas de gêne, pas du tout.
Non, bon après, les bruits sont,
ah ben, ça,
sont,
c'est, oui,
sont
oui,
très
oui,
rapidement
la nature,
forts et peuvent être inquiétants. Pour autant, je n'ai pas de réelle crainte à m'y promener seule. Bon, j'avoue, quand j'étais en Amazonie, c'était un peu plus dangereux. Et d'ailleurs, les personnes s'y promènent très rarement seules. Ou en tout cas, il faut toujours dire à quelqu'un qu'on part dans telle direction, parce qu'il y a des animaux beaucoup plus dangereux.
C'est ça, je voulais dire, il y a des rencontres pas toujours faciles.
Voilà, en France, les femelles sangliers peuvent être agressives.
Pas forcément si on les passe à côté.
Mais en général, les animaux sont plus craintifs que nous. Et puis, j'ai pas beaucoup peur des insectes. Et puis, les loups sont encore peu présents et pas forcément
région.
Dans les forêts.
Puis, ils sont craintifs aussi, les loups.
Oui.
Pourriez-vous vivre sans forêt?
Je pense que personne ne pourrait vivre sans forêt.
Parce qu'on en a besoin.
Oui,
ne serait-ce que déjà pour le bois.
Oui, puis dans l'équilibre environnemental.
C'est ça.
Parce que parfois,
c'est le poumon. Hein.
Oui, c'est le poumon et
c'est le
lieu de vie de plein de pollinisateurs. Et puis, en effet, ça stocke le carbone qu'on produit massivement. Personnellement, je pense que j'ai un peu vécu sans forêt, dans le sens où elle était beaucoup moins consciente quand j'étais plus jeune. Mais c'était quand même un endroit que je traversais régulièrement. Aujourd'hui, je pense que ça me serait difficile parce que, en fait, ça m'occupe énormément à la fois l'esprit et les mains. Peut-être qu'il faudrait que je me trouve une nouvelle passion, mais...
Non, mais c'est bien.
Oui, c'est ça.
Donc, on va mettre la musique maintenant ?
Ah, pourquoi pas ? Vous avez choisi une chanson qui est très douce, qui vous correspond un peu aussi. C'est de Anne Sylvestre.
Oui.
Sylvestre va très bien.
Voilà.
On est dans la forêt. Et vous avez choisi comme titre
Les gens qui doutent.
Les gens qui doutent. Pourquoi cette chanson?
On doute toujours.
Parce que je pense qu'elle est très proche des deux personnages de mon livre, ou même des quatre d'ailleurs, si on prend toute la famille. Et c'est une chanson que m'a fait découvrir mon compagnon assez récemment, finalement, quand j'étais en train d'écrire ce livre, Félix Sylvestris, et que je trouve simplement très belle.
C'est vrai.
Bien, merci. Alors, partons en forêt.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci. cesse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
On dirait presque une balade.
Presque. C'est une balade.
Oui, je la considère aussi.
Ou une complainte, peut-être aussi.
Plutôt un hommage.
Un hommage derrière. Nous retrouvons donc Anouk Leszczyk pour son premier roman, Felis Silvestris. Il nous plonge le temps d'un hiver dans une histoire intime et sensible, explorant notre imaginaire et nos inquiétudes face à des choix de vie qui nous effraient autant qu'ils nous fascinent. Donc, on est parfois souvent à la croisée des chemins. Il y a la frayeur et la fascination. C'est ce que vous ressentez en forêt, par exemple, ou même dans la vie de tout, sans être dans la forêt.
Oui, frayeur et fascination, je pense, font partie de nos émotions quotidiennes. Dans cette forêt dont je parle dans le livre, oui, il est question des deux, peut-être pas tant de... Non, j'utiliserai des mots moins forts, parce que je tiens à me garder de la fascination, à m'en tenir éloignée, dans le sens où d'une fascination naît une image, je pense, moins juste d'un lieu. Et je pense qu'on ne va pas non plus jusqu'à la frayeur dans ce livre. Pour autant, c'est un endroit très contrasté. De manière physique, les forêts créent des ombres et des lumières, mais dans notre imaginaire aussi. Et là, pour Félix qui vit, sa vie ne se résout pas au moment où elle arrive en forêt. Elle traîne avec elle ses automnes au printemps,
comme
dit Anne Sylvestre. Et ça, ça ne se résout pas d'un coup. Par contre, donc elle continue de vivre des moments, des sortes de chutes de morale. Et elle se garde des chutes physiques parce qu'elle vit dans une cabane au perché. Donc elle apprend aussi à se gainer, à s'accrocher pour ne pas tomber. Et donc je pense qu'on est plutôt dans des contrastes comme ça, verticaux, entre remettre ses pieds au sol, réussir
toujours
à s'élever.
Toujours en équilibre, toujours trouver l'équilibre.
Voilà, donc je pense qu'on est plutôt dans cette recherche du milieu.
C'est ça, tout à fait. Tu disais l'équilibre toujours.
C'est ça, l'équilibre.
Rechercher.
On recherche un peu l'équilibre.
Et vous écrivez dans le silence ou en musique? J'y pensais parce que je vois que c'est l'hiver. Je me suis dit, peut-être écrit-elle avec l'hiver des quatre saisons d'Ivaldi. Pourquoi l'hiver? Ou bien est-ce qu'au printemps ou à l'automne, l'automne est importante pour vous, j'ai vu, est-ce que le tour est une sonorité autre? Une odeur peut-être dans la forêt.
Bon, alors ça aurait été très chic d'écrire avec les quatre saisons, mais ce n'était pas le cas. J'écris dans le silence.
Dans le silence.
Oui. Concernant l'hiver, pour ce livre, j'avais besoin d'une saison, parce que c'est un épisode de vie.
Voilà.
Et les saisons depuis ton jour sont très importantes pour moi. Et c'est quelque chose que je pense m'a manqué quand je suis allée dans des pays tropicaux, en fait. Cette simple alternance entre deux saisons.
Deux saisons
uniques. Je trouve ça trop peu. Et moi, vraiment, chaque passage de saison me réjouit, me transforme un peu. Et j'ai l'impression que c'est un bon rythme, quoi, qui me convient. Donc le choix de l'hiver, parce que c'est la saison la plus rude et qui correspondait à une rudesse mentale, une rudesse dans la relation et à une mise à l'épreuve potentielle pour Félix et pour la narratrice. Et j'avais besoin de... Voilà, justement pour ne pas être dans une forêt fantasmée, j'avais besoin de la montrer au moment où elle n'a plus de feuilles, au moment où il y fait froid.
Un peu dénudée, quoi.
Voilà, pas pour me dégager un peu de cette image parfois enjolivée de nos forêts, telles qu'on les voit par ailleurs aujourd'hui.
La réalité.
Oui, et ensuite, concernant les saisons, elles sont à nouveau très, très marquées dans mon prochain livre, qui est chapitré ainsi, en fait, au fil des saisons.
Le livre qui va sortir, on peut parler du prochain livre?
Oui, bien sûr. Alors pour les aspects concrets, il sera de la même nature éditoriale, mais de couleur orange.
Il a changé de ton. Il a changé de saison aussi.
Voilà, donc couleur orange tronçonneuse, orange de la marque Steel, puisqu'il s'agit de bûcheronnage.
Ah.
Il s'appelle Copeaux de bois, sous-titré Carnet d'une apprentie bûcheronne, et il va sortir
le 17
août. C'est
votre futur métier ?
Alors, en tout cas, j'ai été diplômée pour l'exercer.
Oh, super !
Oui, félicitations, j'ai vu.
Merci. Il s'agit de cet apprentissage du bûcheronnage, donc de cet apprentissage technique, mais aussi de tout ce qui va avec, c'est-à-dire...
Comment on en vient là, de bûcheronner ?
Eh bien, en fait, pendant l'écriture de Félix Silvestris, j'ai passé beaucoup de temps en forêt, dans ma tête, puis je m'y suis promenée un peu. Et suite à ça, j'ai aussi fait une résidence dans les Ardennes, où je travaillais avec une classe de CM1, CM2. Voilà, entourée de forêts, le projet portait sur les forêts. Et pendant ces séances, j'ai fait venir plein de professionnels qui travaillaient en forêt pour que les enfants les interviewent et, voilà, et pour construire des récits à partir de ces métiers-là. Et parmi les personnes que j'ai invitées, il y avait une garde forestière de l'ONF
Oula.
Qui s'est mise à parler de son métier. Et je me suis dit, mais cette femme fait le plus beau métier du monde.
Voilà.
Donc ça a été un moment où l'idée a germé. Ensuite, retour à la vraie vie. Je me suis concertée avec mon conseiller Pôle emploi, parce qu'en tant qu'artiste-auteur, je suis aussi inscrite chez Pôle emploi.
Bien sûr.
Et il m'a dit que cette formation n'était pas finançable, mais qu'en revanche, je pouvais me diriger vers les formations financées par la région Île-de-France. Et parmi ces formations, il y avait celle en bûcheronnage.
Alors ça consiste en quoi, ça, alors ?
Eh bien, ça consiste à apprendre à abattre des arbres avec une tronçonneuse.
Ah, carrément.
Voilà, de manière très simple, brute.
Oui, oui.
Mais aussi, à côté de tout ça, c'est comprendre pourquoi on coupe les arbres.
Oui, parce que c'est un choix.
Pourquoi on coupe celui-ci plutôt que
dans
celui-là.
Dans une forêt, on ne coupe pas tous les arbres. Pourquoi on fait... Voilà, c'est ça.
Voilà, comprendre en fait, l'équilibre forestier, l'équilibre des écosystèmes, apprendre aussi à reconnaître les arbres, tout simplement les identifier, les nommer de leur nom français, de leur nom latin.
Oui, oui.
Apprendre quelle peut être leur fonction pour nous, les humains, et donc pourquoi les couper, quelle sera leur destination.
Oui, c'est ça.
Donc c'était en fait une formation très, très complète, et aussi avec des notions de sylviculture, de gestion forestière. Voilà.
Oui, vous apprenez pas uniquement à couper les arbres.
Non, on apprend à les couper, mais aussi à comprendre pourquoi on les coupe.
Pourquoi on les coupe et lesquels.
Voilà.
C'est quand même étonnant, le bûcheronnage. Et vous arrivez à tenir la tronçonneuse ?
Oui, bien sûr, c'est la condition sine qua non.
C'est pas trop lourd ?
Elle est lourde, je ne sais pas combien de kilos elle fait. Après, il y en a de différentes tailles, j'ai commencé avec une tronçonneuse un peu plus petite.
Légère,
oui. Mais moi, c'est, au départ, quand j'ai eu connaissance de cette formation, ça m'a aussi un peu impressionnée. Je me suis dit, bon, je vais peut-être pas faire ça non plus. Cette formation avait un module de 2 mois pour commencer en fait une sorte de préparation à la formation diplômante. Alors je me suis dit bon que je pouvais me lancer là-dedans.
Ouais.
Et j'avais rencontré une ancienne apprentie qui était une femme de 45 ans, mère de 3 enfants, en reconversion, plus petite que moi, pleine d'énergie.
Ah, oui.
Et qui m'a raconté combien ça avait changé sa vie et combien elle avait adoré ça. Donc ça m'a plutôt donné confiance et voilà, je me suis lancée et je l'ai faite jusqu'au bout parce que ça m'a énormément plu.
Qu'est-ce que deviennent les arbres qui sont coupés ?
Alors, ça dépend.
Parce que certains fûts, ça passe en Syrie, mais il y en a d'autres. Comment ça se passe ?
Il y a toutes sortes de destins pour un arbre.
C'est ça,
nous,
en fait.
ceux qu'on s'entraînait à couper, on en faisait du bois de chauffage.
Ouais.
Donc, on les coupait aussi en tronçon de 1 mètre ou 50 cm,
oui,
ou 33 cm. Voilà, sinon, pour ceux qui font de la grume...
Oui, c'est ça, les grumes, oui.
Eh bien, oui, ça sert à la construction, en fait, soit sous forme de planches, soit sous forme de poutres, de charpentes.
Parce qu'on en vient maintenant à construire des maisons en bois, de plus en plus.
Oui, bien sûr. Puis, il y a toutes sortes de techniques aussi qui émergent ou qui réémergent. Là, moi, dans ma formation, j'avais par exemple un collègue qui va se lancer dans la construction en fuste. Donc, c'est les rondins de bois, en fait,
oui,
des,
oui,
maisons en rondins. C'est une technique toute particulière. Et voilà, et ce week-end, par exemple, j'étais à l'Assemblée Générale d'une association qui s'appelle le Réseau pour les Alternatives Forestières, le RAF. Et c'est un réseau qui regroupe plein de personnes qui travaillent dans la filière bois, donc que ce soit du bûcheronnage à la charpente, en passant par plein d'autres métiers.
Oui, c'est vrai qu'il y a plein de métiers à venir. Voilà, et ce sont des métiers encore à venir, je pense.
Et ce sont des personnes qui ont choisi de travailler un peu en dehors des circuits conventionnels, qui se créent leur propre structure plus coopérative.
Qui innovent, en somme, qui prennent d'autres chemins.
Voilà, qui prennent d'autres chemins. Découverte. Dans des filières courtes, locales. Et bon, là, c'était l'occasion de se rassembler de manière nationale, mais en tout cas ça m'a ouvert aussi plein de perspectives du devenir de ce bois, quoi, et c'était plutôt réjouissant.
Puis c'est vivant, un bois aussi.
Ah, c'est...
Oui, bien sûr, c'est son
c'est la vie même,
c'est
le
son
bois.
Essence d'être vivant.
Mais oui,
c'est la vie même, c'est la vie même du bois. Et n'importe quel bois, enfin, ils sont choisis quand même. Quand vous allez les couper, ils ont des numéros dessus, comment ça se passe?
Non, alors ce sont les parcelles qui sont numérotées. Par contre, les arbres
sont... Ah, mais ils coupent tout comme ça, d'un seul coup ?
Non, les arbres sont marqués ou martelés.
Ah, voilà.
Oui,
donc,
il n'y a plus de coupe comme ça.
Non.
Ah, si, bien sûr, les coupes rases existent encore beaucoup trop et ont été très... très promu par le plan de relance aussi, qui a aidé, voilà, à les financer, oui, a fait beaucoup de mal à nos forêts ces dernières années.
C'est ça.
Et donc, là, le réseau dont je parlais d'alternatives forestières et d'autres mouvements citoyens, tels que les groupements forestiers, se luttent contre ça, en fait, contre cette pratique-là de la monoculture et qui s'ensuit d'une coupe rase 40
ça,
ans plus
fait.
Tard.
Ouais, oui.
Et là, on est plutôt sur une quête d'une sylviculture douce à couvert continu.
C'est pour conserver justement la forêt.
Oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est de prélever. J'utilise le vocabulaire forestier,
oui,
qui est en fait un euphémisme de prélever, mais en fait, il s'agit donc d'abattre quelques arbres pour voilà, qui permettent aussi aux autres autour
de pousser
peut-être mieux, plus rapidement, de manière plus équilibrée. Et permettre aussi au sol de rester couvert, parce que le gros problème des coupes rases, c'est que le sol se retrouve à nu
et donc
complètement appauvri.
Mais curieusement quand même, il a une certaine force, l'arbre, parce qu'il se régénère quelquefois. Moi, ça m'épate, parce que je vois des régions où c'est complètement rasé, et on voit quand même des arbres qui commencent à repousser. C'est quand même une certaine force de la forêt, je trouve.
Oui, bah, je pense que ça fait partie des choses qui me la rendent
attachante,
sympathique, tout ça.
Oui, puis ça, en fait, c'est de l'espoir sur pied, quoi.
Voilà.
Cette faculté à renaître toujours,
c'est un symbole de vie, de survie et de renaissance.
Oui, et de cycle. Et ça, c'est quelque chose qui me...
On apprend beaucoup des forêts.
Oui, et en fait, bon, nous, là, on est dans des cycles très courts, mais les forêts, en fait, une forêt adulte, c'est une forêt de 400 ans.
C'est
là,
ça, ouais.
Là, quand un arbre a déjà 80 ans, on considère qu'il est vieux et qu'on a bien le droit de le récolter, alors qu'en fait, il en est à sa préadolescence.
C'est ça, il est adolescent.
Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi dans les métiers forestiers, c'est que ce sont des personnes qui, au quotidien, pensent à des échelles de temps qui sont bien loin des nôtres, dans notre immédiateté maladive, quoi. Et donc là, de se projeter ne serait-ce que sur 50 ans, c'est autre chose que se demander si on a bien, rendu notre papier pour le lendemain, quoi.
Mais c'est ça, oui. Est-ce qu'on a déclaré ses impôts ?
Voilà,
par exemple.
Vous devez souffrir devant les incendies de forêt.
Je pense que les arbres souffrent plus que moi dans ces moments-là, mais en effet, c'est toujours...
dramatique.
C'est toujours catastrophique. Et vous parliez tout à l'heure de fascination et de frayeur. Je pense que je ressens ça et que je ne suis pas la seule, d'ailleurs, parce que ces images d'incendie sont...
Vous avez vu au Canada ?
Oui, au Canada en ce moment. Ce ne sont pas les derniers. Il y avait eu beaucoup de méga-feux aussi il y a quelques années. Enfin, il y en a chaque année, en fait, à différents endroits de la planète, en Gironde l'été dernier et dans d'autres régions de France.
Oui.
Et là, tous les forestiers et les pompiers sont vraiment en alerte pour cet été qui s'annonce encore caniculaire.
C'est ça.
Et en fait, moi, lors d'un stage l'an dernier, au cours de ma formation en bûcheronnage, j'étais en Charente-Maritime au mois de juillet. Et il y a eu un départ d'incendie. Et moi, j'étais avec un garde forestier à ce moment-là.
Ils sont vite prévenus dans ces cas-là ?
Ils sont très vite prévenus parce qu'il y a des dispositifs de surveillance.
Oui,
alors
c'est
maintenant, ce sont des caméras. Il y a une tour de guet qui est
tourne.
Occupée par des caméras. Mmh. Avant, c'était les ouvriers forestiers qui assuraient ce rôle.
C'est ça, qui étaient là sur les guets, oui.
Et donc on a eu un départ de feu, voilà, ça a mis peut-être une demi-heure avant de le localiser, et les pompiers étaient tout de suite sur place, et en fait le feu n'est pas allé bien loin.
Trop loin.
Mais donc on s'est rendu sur place quand même nous aussi, et c'était, c'était déjà très impressionnant en fait, parce que maintenant aussi ces images de feu, quand bien même ils sont encore petits, sont contaminées par ces méga feux qu'on a vus là en boucle dans les médias, et ça... Oui, ça crée tout de suite un sentiment.
Et puis il y a la chaleur qui active aussi tout.
Oui, la chaleur et puis
la sécheresse, c'est terrible.
Oui, et puis cette manière que le feu a de se transmettre parfois sous la terre aussi.
C'est ça.
Ça, c'est très effrayant, ça le rend encore plus
indomptable. C'est pour ça qu'il met un moment à l'éteindre, parce qu'il couvre toujours, hein,
oui.
Souvent. Et on a l'impression que le feu est arrêté, mais il couvre toujours.
Oui, là, et puis il y a des techniques pour justement essayer de le couper. Donc là, j'ai vu des pompiers qui tapaient à coups de hache sur les souches pour essayer de couper, de tasser les braises qui pouvaient être
C'est-à-dire
actives.
C'est-à-dire que c'est pour arrêter justement que le feu s'active.
Oui.
C'est le problème. Ça devient dramatique.
Oui, oui.
Donc on en revient à votre livre, votre prochain
si vous
livre.
Voulez, oui.
Donc alors vous parlez alors de quoi vous parlez dans ce livre alors en
fait. Ben, peut-être pas tout dire.
Mais ouais. Si on commence un peu à en parler.
On va écarter les feuillages alors.
Allez si.
Oui, alors je raconte au fil des saisons ma formation en bûcheronnage. Donc
voilà.
Pour le coup c'est totalement autobiographique. Et documentaire. Moi mon idée avec ce livre l'idée de départ était assez floue. Je voulais faire un livre documentaire qui parlait des métiers forestiers qui je trouve sont.
Et là sans la caméra.
Sans la caméra, par l'écrit, et parce que je trouve que ces métiers forestiers sont peu représentés dans la littérature, parce que la forêt est très présente, mais dans son volet imaginaire, et c'est le cas moi dans mon premier
livre.
Et donc là, je voulais quelque chose qui parle du concret en fait, et de qui donne à voir comment elles sont travaillées ces forêts en fait, comment parfois on croit qu'elles sont, complètement inhabitées, mais en fait ce sont des générations d'êtres humains qui les ont travaillées au fil des siècles.
C'est comme ça qu'elles survivent.
En tout cas, elles trouvent un moyen de survivance cet équilibre-là.
Oui.
Une forêt qu'on laisse en libre évolution peut tout à fait survivre aussi. Elle peut aussi tout à fait cramer. Enfin, bon, disons qu'il n'y a pas de parcours
particulier
obligatoire pour une forêt. Mais là, quand la sylviculture est bien menée, ça permet à la fois à la forêt de survivre et aux humains d'en prélever un petit peu, quoi, pour leur utilisation propre.
Et vous pensez qu'en France, on prend soin des forêts maintenant ?
Alors, vaste question. La tendance va de plus en plus vers la gestion irrégulière, donc ce que je vous disais tout à l'heure sur le couvert continu et donc une méthode plus douce. Pour autant, les coupes rases sont encore très pratiquées. Et voilà, comme je disais, ont été plutôt financées par le plan de relance, ce qui a été problématique à plein d'endroits. Oui. Il faut savoir aussi que 25% de la forêt en France est publique, tout le reste est privé. Donc il y a le travail que fait l'ONF dans les forêts publiques qui est très souvent critiqué, qui de mon point de vue, et pour l'avoir vu de près justement pendant mes stages, n'est pas que critiquable. En fait, j'ai rencontré plein de personnes qui faisaient très bien leur métier avec une grande conscience, un grand savoir concernant leur forêt. Par contre, parmi les 75% de forêts privées, il y a aussi des grands propriétaires que sont les banques, les assurances.
Et ceux-là, ils vendent les bois. Ils vendent les bois.
Oui, ceux-là, je pense, ont moins de scrupules à pratiquer des grandes coupes et la monoculture encore et toujours.
Et il y a même des pays étrangers qui rachètent le bois en France.
Oui, il y a ce qu'on sait de transactions avec la Chine qui crée des absurdités absolues de bois qui part de chez nous, qui transite jusqu'à la Chine et qui revient chez nous sous forme de meubles IKEA. IKEA ou autre. Ça fait partie du problème forêt en fait. Toute la filière bois est concernée.
C'est terrible. Parce que moi j'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient hérité d'une forêt. Et quand ils ont voulu aller voir leur forêt, elle avait été coupée dans la nuit. C'est-à-dire que les gens sont arrivés avec des gros camions, ils ne parlaient pas français, hein, Ils ont tout rasé, ils ont emporté les bois.
Oui, mais ça, c'est, je pense que c'est un autre problème qui suit.
Mais oui, mais bon, c'est ça les forêts.
Suit du braconnage, oui, oui, oui. Elles sont convoitées, et puis là, le cours du bois augmente, donc elles oui. le sont de plus en plus. Je ne connais pas les personnes qui sont allées faire ça très malhonnêtement. Je pense que ce sont des personnes dans une précarité absolue qui ont sans doute été envoyées par des patrons
bien
atroces
sûr,
et,
oui, c'est ça.
En étant sous-payées. Et ça, ce sont aussi des problèmes sociaux et transfrontaliers structurels et qui impactent aussi
Ça existe, mais ça existe. Donc les gens, ils ne savent plus comment faire. Ce qui te retrouve, vous avez hérité de cette forêt, ils n'ont plus rien.
Oui, alors là, il existe aussi des solutions, des sortes de solutions. Il y a notamment, pour les propriétaires qui ne peuvent pas s'occuper de leur forêt, là, ça faisait partie des points de discussion du réseau d'alternatives forestières qui était abordé ce week-end. Il existe un bail forestier, c'est-à-dire qu'on peut louer notre forêt pour, soit même à titre gratuit, soit avec un loyer. En tout cas, on peut confier à une association soit qui l'exploite de manière très
raisonnée,
soit qui crée une activité. Ça peut être des activités pédagogiques, ça peut être de l'accueillette raisonnée aussi. Enfin, voilà. Donc il existe des manières de confier aussi la gestion de nos forêts à des personnes qui font ça bien.
Quel joli voyage dans les forêts.
C'est un beau voyage. On y resterait bien, on serait au frais en ce moment dans les forêts.
Oui, ça ferait du bien. Là.
Ça ferait du bien. Nous allons redonner ce qui concerne les références de votre livre. Donc, Anouk Leszczyk, Félix Silvestris, aux éditions du Penseur, c'est ça ?
Avec un A.
Avec un A, le Penseur, qui pense les plaies, peut-être, des forêts, je ne sais pas.
Oui, qui pense les mots.
Qui les soigne, c'est beau. Et cela, votre livre est publié avec le soutien de la région Aura, j'ai vu.
Oui, tout à fait. Ça a été un soutien à l'impression. Et c'est le cas aussi du prochain qui va sortir au mois d'août, Copeaux de Bois.
Alors, il sort au mois d'août. Il sort à quel moment, à peu près, quel jour ?
Il sortira le 17 août.
Et alors, le titre du prochain livre ?
Ce sera Copeaux de Bois, sous-titré Carnet d'une apprentie bûcheronne, aux éditions du Penseur.
D'accord.
Copeaux de Bois, c'est bien, les copeaux. Des chips en anglais.
Oui.
Eh oui, copeaux de bois. Merci Anouk pour votre présence. Nous sommes ravis et puis nous vous félicitons pour pour la richesse et l'aisance de votre expression en même temps. C'est très vivant.
Oui, hein, j'ai beaucoup aimé.
C'est très vivant, c'est très agréable.
Ah, écoutez, on a passé un joli moment.
Merci à vous deux pour votre invitation et pour votre accueil.
Avec grand plaisir. Et alors, nous formons des vœux pour le succès.
Pour le prochain.
Et jamais de 103, et puis le troisième qui va arriver dans une clairière déjà, qui est sûrement peut-être...
Il sera en lisière de forêt.
Merci. Merci à Jimmy aux manettes, qui est fidèle et qui apprend chaque fois que nous venons, très attentif. Merci Gisèle.
Merci à vous.
Et pour terminer, vous avez choisi ?
J'ai choisi un duo de Balaké Sissoko et Vincent Segal, donc Balaké Sissoko à la cora et Vincent Segal au violoncelle, qui s'appelle Chamber Music.
Eh bien, merci beaucoup et bonne continuation.
Merci à vous, merci Jimmy.
En forêt.
Merci.